Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture comme chaque matin. Et hasard de l'actualité, il y aura beaucoup de musique aujourd'hui. Rien que dans nos indispensables, le film Elvis. Et puis on va parler de gastronomie musicale avec le camarade Laurent Mariotte, vous allez comprendre. Le Quatuor sera là, Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa Marie Marquez et son portrait, Marc-Antoine Lebray ses stories et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences qui sortent tout chaud du four. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct pour évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque, le début, la fin, le milieu ou la totalité sur europe1.fr. Notre infomédia va se pencher sur les 35 ans de Voici, le magazine qui a osé se lancer dans la presse people en France. Il est moins trash qu'à ses débuts, il a vu des concurrents arriver, d'autres également périclités. Comment faire du people alors à l'heure où les réseaux sociaux balancent tout? Réponse avec sa rédactrice en chef Marion Alombert.
Place à une icône ensuite. Trax, l'émission d'Arte, qui explore depuis 25 ans la musique et l'art sous toutes ses formes et toutes ses coutures, des plus sages aux plus déjantés. Nous serons avec ses rédacteurs en chef, David Combe et Jean-Marc Barbieux.
Vous avez peut-être reconnu la voix culte inimitable de l'émission Trax, sa signature unique. On vous dira tout sur elle. Enfin, une voix culte également de l'Afrique, star connue dans le monde entier, Alpha Blondie, pour son nouvel album Eternity, un album militant, mais pas seulement. Il est également festif. Vous entendrez le single qui cartonne déjà un peu partout, Pompier Pyromane. Aucun rapport avec les feux de forêt. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire, Louise, de votre journal des médias.
On consacre une grande partie de ce journal aux nombreuses, très nombreuses nouveautés de la rentrée de TF1. Le groupe les a annoncées hier. Dans l'actu également, le journal Le Point dans l'embarras. Léa Salamé, elle ne présentera plus l'émission politique de France 2 et la possible motion de défiance envers le directeur de l'information de France Télé.
L'autre présentateur de l'émission politique de
Tout
France 2.
Hasard.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardées les Français hier soir.
Ils ont regardé TF1, un film rediffusé, je ne peux pas vous dire pour la combientième fois, mais où est donc passée la 7e compagnie?
Mais
4 320 000 téléspectateurs,
c'est
toujours
incroyable.
23% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec une rediffusion, là aussi, la série La Stagiaire, 2 840 000 téléspectateurs, 15% de part d'audience. Et puis troisième, M6, un petit niveau pour le retour du meilleur pâtissier, les professionnels, 1 590 000 téléspectateurs, 9,5% de part d'audience. Désolé Philippe, on ne leur a pas porté chance.
Vous me l'avez ôté de la bouche.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec les nouveautés de la rentrée de TF1. Le groupe les a annoncées hier lors d'une conférence de presse où vous étiez présente, Louise.
Oui, beaucoup, beaucoup de nouveautés annoncées. Alors on va y aller point par point en commençant par les fictions. Comme l'an dernier, TF1 mise beaucoup sur les séries et téléfilms français, au détriment d'ailleurs des séries américaines moins nombreuses. TF1 préfère les créations originales et, il faut le reconnaître, ambitieuses. On peut citer quelques exemples. Les Combattantes, qui va être vraiment l'événement de la rentrée.
Ah oui.
C'est une série historique sur la Première Guerre mondiale à très gros budget. Syndrome E, également l'adaptation d'un roman de Franck Tilliez avec Vincent Elbaz qui fait son grand retour à la télé et Emmanuel Béart qui sera pour la première fois dans une série. À noter aussi la première réalisation d'Alexandra Lamy. Elle adapte la BD Touchée en téléfilm pour La Une. La première série écrite et interprétée par Kev Adams aussi, à venir. Une vingtaine de nouveautés en tout, dont des coproductions internationales et des fictions autour de sujets de société, handicap, violence sexuelle, faits divers aussi, l'affaire Daval pour la première fois en fiction, avec toujours beaucoup de noms connus d'acteurs et d'actrices de cinéma aussi qui se frottent à la télévision. La frontière entre ces deux mondes, autrefois très marquée, s'efface un peu aujourd'hui. J'en ai discuté avec Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1.
Je pense qu'ils trouvent à la télévision, dans les séries, des rôles qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir au cinéma, dans un exercice qui est très différent, puisqu'on suit les gens sur plusieurs heures. Donc on a la possibilité, je pense que les comédiens ont la possibilité d'entrer dans leur rôle de manière très profonde. Et à chaque fois qu'ils ont une expérience télévisuelle, je peux vous dire, c'est qu'ils y reviennent, parce que c'est quelque chose d'assez unique dans son genre. Et aujourd'hui, la télévision est extrêmement ambitieuse. Lorsqu'on voit Les Combattantes qui a un budget de plus de 20 millions d'euros, qui est le budget le plus important pour une fiction française à ce jour, je dirais, on n'est pas loin, et je dirais même au-delà je dirais, des ambitions de beaucoup de films de cinéma.
Et côté divertissement, la Une va miser là sur ses grandes marques, avec le retour de nombreuses émissions très connues hein, des téléspectateurs, Koh-Lanta, The Voice, Masked Singer, Danse avec les Stars, etc. Et puis TF1 joue aussi sur la nostalgie en relançant des programmes anciens. Le meilleur exemple, c'est le retour de la Star Academy, hein, avec des primes et une quotidienne, comme à l'époque, chaque jour, avant les feuilletons de la Une, ce sera vers 17h. Dans la même lignée, la Une annonce un prime événement. Écoutez bien, les inconnus vont se reformer. Ce sera le temps d'une mini-fiction inédite. Gros coup pour TF1. Et puis, des sketchs cultes seront rejoués par d'autres comédiens et comédiennes. TF1 ressuscite aussi Un gars, une fille pour fêter les 20 ans du programme qui a fait connaître Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Alors, ce sera un prime avec les meilleurs moments et des duos inédits qui vont rejouer certaines scénettes. Bref, TF1 va faire du neuf avec de l'ancien.
Reprendre des grandes marques, ce n'est pas forcément faire du surplace, c'est à la fois offrir au public ce qu'il aime et à la fois offrir quelque chose de nouveau, puisque on travaille toujours sur une évolution de ces marques. Elles ne sont plus que jamais vivantes sur notre antenne, que parce qu'on a travaillé avec la production pour les modifier, les adapter année après année. Et puis on ne laisse pas tomber la création, bien évidemment.
Et gros coup de TF1, parce qu'Un gars, une fille et Les Inconnus, c'était sur France 2 et ça passe sur la Une.
Mais oui, alors Un gars, une fille, on en a parlé justement, un des journalistes a posé la question et ils ont dit « Oh, ça fait partie maintenant du patrimoine télé, donc ils n'hésitent pas à reprendre sur TF1 ». À noter que TF1 aussi a confirmé le nom de celle qui va remplacer Alessandra Sublet aux côtés de Nicolas Canteloup. C'est officiel, c'est Hélène Manarino qu'on connaît bien dans cette émission. On l'embrasse, on la félicite.
Ah, c'est officiel, on l'embrasse officiellement.
Elle quitte donc la matinale de LCI, mais elle va continuer à Appel d'urgence et elle travaillera aussi sur d'autres projets pour TF1. Et puis pour finir sur ce sujet du divertissement, beaucoup de spectacles d'humour seront proposés sur les chaînes du groupe et le seul en scène de Fabrice Lucchini qui a accepté pour la première fois qu'un de ses spectacles soit filmé et diffusé à la télévision.
Dernier point de cette rentrée que vous vouliez aborder, Louise, c'est l'offre numérique de TF1.
Oui, le groupe va beaucoup miser sur sa plateforme MyTF1. Elle enrichit son catalogue avec 200 séries qui seront disponibles en intégralité, en plus de celles en replay, 100 films, de la télé-réalité aussi avec une production originale par mois qui sera disponible exclusivement sur cette plateforme, le tout gratuitement. Et puis, il y aura des programmes aussi autour de ceux diffusés à la télévision. Pour la Star Academy, par exemple, il sera possible de suivre en permanence ce que font les candidats. Pour Danse avec les Stars, il y aura un programme qui va danser avec les stars, ce sera un programme pour recruter l'un des danseurs de l'émission. Tout ça, ce sera vraiment des exclusivités MyTF1. Ce ne sera pas diffusé à la télévision. C'est une manière de cibler davantage les jeunes, hein. Une cible vraiment très importante pour TF1. Ça a été dit et répété hier lors de cette longue conférence de presse.
Le journal hebdomadaire Le Point retire un article sur Alexis Corbière et Raquel Garrido et s'excuse.
Oui, un article publié il y a deux jours qui mettait en cause le couple de députés. Il racontait qu'ils exploitaient une femme de ménage sans papier. Les deux députés de la France Insoumise avaient fermement démenti point par point ce qu'avançait l'article. Hier, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire, Étienne Jernel, a publié un texte sur Twitter pour présenter ses excuses donc, et a annoncé retirer l'article du site internet en raison d'erreurs et de manquements. Il précise que Le Point va continuer d'enquêter pour comprendre ce qu'il s'est passé, car depuis la publication de l'article, de nombreux internautes et journalistes s'étaient penchés sur les accusations du Point et avaient pu montrer de nombreuses incohérences, hein, notamment Mediapart qui a proposé une contre-enquête qui innocente Alexis Corbière et Raquel Garrido. Le journaliste du Point, Aziz Zemmoury, s'était notamment basé sur des captures d'écran de SMS pour écrire son article, captures qui se sont avérées être des fausses. Les deux députés, eux, ont réclamé le licenciement du journaliste en question. C'est l'honneur du métier qui est en jeu et la confiance que les citoyens accordent à la presse. Des sanctions doivent être prononcées. Voilà ce qu'a écrit Alexis Corbière sur Twitter.
Dans l'actualité des médias également, Léa Salamé renonce à l'émission politique sur France 2.
Oui, alors elle avait déjà annoncé qu'elle ne pourrait pas continuer toutes ses activités médiatiques à la rentrée. C'est donc à l'émission politique qu'elle renonce d'après Télérama. Il faut dire qu'elle va déjà être bien occupée hein, entre sa matinale radio et le talk show du samedi soir de France 2 qu'elle reprend seule. Qui pour lui succéder dans l'émission politique alors ? Eh bien Caroline Roux serait favorite, grande habituée de l'exercice. Hein. Elle interviewe chaque jour des femmes et hommes politiques dans Télématin. Mais selon Télérama, rien n'est encore vraiment arrêté. Hein. Les négociations sont toujours en cours.
À France Télévisions toujours, le directeur de l'information est dans la tourmente.
Oui, les journalistes du groupe ont décidé de soumettre au vote une motion de défiance contre Laurent Guimier. Pourquoi ? Eh bien, le non-renouvellement d'un tiers des CDD de la rédaction, après avoir pourtant garanti à la Société des journalistes quelques jours plus tôt l'inverse. Hein. Il avait promis de renforcer les services de la rédaction pour l'été. Mais en fait, c'est en réalité une goutte d'eau hein, qui a fait déborder un vase déjà bien plein. Les relations sont tendues avec la rédaction depuis plusieurs mois. Le vote aura lieu jeudi prochain.
Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter. 17h Média sur Europe1.fr à lundi pour un nouveau journal des médias. Je vous souhaite un très très bon week-end.
Merci, vous aussi, à lundi.
Dans un instant, oui, mais moi j'ai pas fini. Sur Europe, dans notre info média du jour.
Moi non plus, vous savez, ça s'arrête pas après le journal.
Mais je sais, l'émission de lundi, on la prépare le vendredi, ça ne s'arrête jamais. Les 35 ans du magazine Voici qui met cette semaine à sa une l'acteur Johnny Depp. Après le procès, vous savez quoi ? Il est en visite à Paris et surtout Voici révèle quelle personnalité française leur a coûté en procès pas moins de 600 000 euros. On en parle avec la directrice de la rédaction du magazine, c'est Marion Alombert. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Voici le pionnier des magazines People, fête cette année son 35e anniversaire, 35 ans de scoop, de photos volées ou même parfois montées, arrangées. 35 ans pendant lesquels le secteur du People a beaucoup évolué, d'abord avec l'arrivée de la concurrence, comme avec Closer en 2005, Closer qui a amené l'intrusion des hommes et des femmes politiques adultérins dans les colonnes du magazine, et enfin avec l'arrivée des réseaux sociaux qui ont transformé tout un chacun en reporter armé de son smartphone. Pour célébrer son anniversaire, Voici propose cette semaine un grand sondage sur les People, les événements qui ont marqué les Français durant son existence. Parmi les questions, quelle rupture vous a brisé le cœur ? En une, celle de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Johnny Depp qui fait la une cette semaine de Voici car il est à Paris. Scoop de Voici, bonjour Marion Alombert.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Voici. C'est votre vrai nom, Marion Alombert ?
Alombert, oui, tout à fait.
Je vous demande ça parce qu'il y a 35 ans, les journalistes de Voici, j'en connaissais, se cachaient ou alors écrivaient sous pseudonyme.
Alors, j'ai écrit dans Voici sous pseudonyme, tout à fait, mais comme je n'écris plus, je ne garde que mon nom actuel.
C'était quoi votre pseudonyme ? Vous en avez plusieurs ?
C'était, oui, alors attendez, c'était le nom de ma grand-mère, Giraudot, et le prénom c'était Carole, qui était celui d'une de mes amies à l'époque, Carole
voilà,
Giraudot.
Voilà, je m'adresse aux people, si vous avez quelque chose à dire à Carole Giraudot, elle est dans ce
c'est
studio.
Moi.
35 ans du magazine Voici, vous n'y êtes pas depuis 35 ans, vous y êtes depuis combien de temps ?
11 ans.
11 ans, que représentait Voici pour vous quand vous étiez lectrice du magazine ? Est-ce que vous disiez, quand vous passiez le bac, un jour vous alliez écrire dans ce journal ?
Alors non, très honnêtement, je me voyais journaliste, pas forcément aux presse people. J'ai fait voilà, des études en me disant que je voulais vraiment travailler dans un magazine. Et alors, je suis effectivement rédactrice en chef de Voici depuis 11 ans, mais en fait, j'ai commencé là-bas. C'est-à-dire que j'ai fait des stages, et parmi les stages, il y en avait un à Voici. Et je suis tombée amoureuse du titre, de l'équipe.
C'est pas vrai, pourquoi ? Parce qu'en général, je vais citer la doxa, les jeunes journalistes qui se lancent dans le métier, ils veulent être soit grand reporter, soit écrire des papiers de fond dans Le Monde, ou
ah,
Le Monde Diplo.
Alors, j'ai
pourquoi
fait des...
vous Voici ?
Écoutez, un hasard, puisque j'avais fait des stages aussi cette même année au Parisien, au Nouvel Obs, et Voici, j'ai eu un coup de cœur pour l'équipe, pour la façon de travailler, pour ce côté hyper excitant et très très drôle du People. Et ils m'ont rappelé un an après pour un CDD qui s'est transformé en CDI. Après, voilà, j'ai vécu d'autres aventures et ils m'ont rappelé il y a 11 ans.
Et maintenant, c'est vous la patronne. Quand on regarde le numéro qu'on a entre les mains, on a l'impression que la maquette et la ligne éditoriale du magazine ont peu évolué ces dernières 20 années. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'on ne change pas une équipe qui gagne ?
Alors, elle a quand même beaucoup évolué parce que c'est un marché qui est quand même voilà, assez difficile. On l'a surtout beaucoup féminisé les 10 dernières années. On a vraiment étoffé les pages lifestyle, beauté, culture,
La proportion mode. De femmes dans votre lectorat, c'est laquelle ?
80%.
80, ça m'a même frappé dans l'horoscope.
Il est au féminin, oui.
Ben oui, évidemment, parce que moi je suis cancer. Vous ne lâchez rien, vos partenaires non plus, sauf que vous êtes plus endurante qu'eux.
Oui.
Je me dis, tiens, je suis endurante, alors que voilà.
On est
si j'avais été vierge, j'aurais été forte à ce jeu dont je maîtrise les règles. C'est votre horoscope qui est féminisé.
Tout à fait. Alors, on s'adresse à 80% à des femmes. Donc, effectivement, la mode est exclusivement féminine, la beauté aussi. On fait des spéciales hommes, mais voilà, une fois de temps en temps.
Vous parliez, vous disiez que ce qui vous avait séduit à Voici, c'était qu'on se marrait. On va être content aux Parisiens et à l'Obs. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de paparazzi dans Voici. Et il y a aussi des légendes en mode langue de vipère qui accompagnent les photos. Exemple, photo de Meghan Markle qui assiste à un match de polo de son époux, le prince Harry. Vous écrivez ceci. Meghan adore les chevaux car malgré leurs grandes oreilles et leurs grandes dents, ils ne sont pas de sa belle famille.
Oui, tout à fait.
Vous faites plaisir.
Oui, on se fait plaisir. Alors, c'est le ton Voici qui fait d'ailleurs sa spécialité.
Qui écrit ça ?
Alors, c'est écrit en collectif, c'est-à-dire que...
Vous êtes tous ensemble et on se marre ensemble.
On est tous ensemble et on fait circuler les papiers et chacun de façon un petit peu comme ça, artisanal, écrit une légende, deux légendes, selon son inspiration, et on garde la meilleure.
Il écrit toujours avec vous, Philippe Janada, ou pas ?
Non, il est parti il y a quelques mois.
Je voulais dire qu'il est immense écrivain, immense romancier,
oui,
et qu'il avait
fait.
Deux vies, ses romans, et puis il avait notamment eu le prix de Flore, et puis il écrivait des légendes pour Voici,
il écrivait
avec
les...
un humour féroce et très fin.
Tout à fait.
À l'occasion des 35 ans de Voici, vous organisez un grand sondage avec l'Institut Harris Interactive. À la question « Quelle est votre star française favorite de ces 35 dernières années ?» les Français ont répondu « Johnny Hallyday, bien sûr, à 43%, puis Depardieu Su à 24%, Jean Dujardin à 19%. Jean Dujardin, je donne l'info qu'on a donnée, il sera sur TF1 l'année prochaine avec Un gars, une fille. Et à la question « Quelle star étrangère plébiscitez-vous » les Français répondent ça m'a fait sourire, parce que c'est quand même la plus française des étrangères.
Oui, exactement.
Hein ? Et si on réfléchit bien, Johnny est belge. Vous auriez pu aussi le classer dans les étrangers. Puis la question ensuite qui suit, quel événement People vous a le plus marqué ? Là, c'est très très étonnant, l'affaire DSK à 43%. En quoi est-ce un événement People et non un événement politique ?
Alors, c'est vrai que le people et la politique se confondent beaucoup ces dernières années. À partir du moment où on a choisi de traiter des politiques, certains sont devenus vraiment people. Pour nos lectrices, finalement, c'est des personnalités très connues. Donc l'arrestation de Strauss-Kahn sur, en plus, donc, des faits de harcèlement sexuel, soupçons de viol, etc. C'est des choses qu'on traite toujours dans Voici. Donc pour elle, c'est un événement people.
À quel moment de l'histoire de Voici, les politiques font irruption dans les colonnes de votre magazine ? Il y en avait parfois, mais on a l'impression que c'est Closer qui a fait sauter une digue avec la révélation de la liaison hors couple de François Hollande et de Julie Gayet.
Alors ça avait commencé en fait avant. Puisque sur Voici, on avait commencé avec Ségolène Royal. On avait fait aussi pas mal de Nicolas Sarkozy à l'époque, de sa rencontre avec Carla Bruni. On a fait, voilà, c'est quelque chose qu'on traitait depuis longtemps et qui effectivement s'est intensifié en fonction des histoires politiques et des personnages. Il y en a qui prennent plutôt bien. On le voit d'ailleurs dans le sondage, puisque sur les couples étonnants, les trois premiers sont des couples politiques.
Alors je vais le dire, les couples qui étonnent le plus les Français, en tête avec 31% Emmanuel et Brigitte Macron, en deux François Hollande et Julie Gayet, et en trois Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Ce qui est très étonnant, c'est que le couple le plus étonnant, c'est trois couples politiques.
Oui, parce que je pense que les Français s'attendent peut-être à des couples un petit peu plus traditionnels sur les politiques, quelque chose d'un petit peu plus rangé, un peu moins hors cadre. Et c'est vrai que ce sont trois couples qui, pour des raisons différentes, les étonnent. Donc moi, ça ne me surprend pas. Ils attendent, je pense, les politiques sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux.
Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement ? Est-ce que vous avez déjà mis un paparazzi en bas de chez Elisabeth Borne ?
Non, pas tout à fait. On n'est pas encore sur des personnages qui sont justement people pour nous.
C'est-à-dire, par exemple, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un personnage people pour vous ?
Alors, on l'a traité plusieurs fois, mais c'est pas quelqu'un, par exemple, qui... ça va dépendre, hein, mais si demain, évidemment, il est avec une star, une actrice, etc., évidemment, mais...
La pression que vous mettez aux politiques, c'est terrible.
Voilà. Mais en l'état actuel, non.
Vous connaissez ce qu'on disait de Voici et des Guignols à la grande époque ?
C'était ?
C'est super à regarder, c'est horrible quand t'es dedans. Vous restez avec nous, Marion Alombert, vous êtes la rédactrice en chef de Voici. On a plein de questions à vous poser, et notamment des questions médias, évidemment.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Ce sont les 35 ans de Voici. Nous sommes avec Marion Alombert, c'est la rédactrice en chef du magazine. Vous y êtes depuis 11 ans. La une de cette semaine, Johnny Depp, son voyage secret à Paris. Palace, viré au resto, là aussi un petit oxymore, parce que s'il est au resto, c'est que c'est pas secret, puisqu'un resto en général c'est public. Mais quand même, son procès face à son ex-femme Amber Heard avait monopolisé toutes les attentions médiatiques pendant plusieurs semaines. Verdict plutôt favorable à l'acteur le 1er juin dernier, c'est ce que racontait sur notre antenne notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux.
Selon le jury, Amber Heard a monté de toutes pièces avec malveillance des accusations d'abus. Dans une tribune du Washington Post en 2018, elle affirmait être une victime de violences conjugales. Présente hier dans la salle d'audience, l'actrice s'est dite dévastée par le verdict et le qualifie de revers pour les femmes qui prennent la parole. Elle devra donc payer un peu plus de 10 millions de dollars à Johnny Depp. Son ex-époux en demandait 50, estimant que ses accusations avaient ruiné sa carrière. Il explique désormais que le jury lui a rendu la vie, satisfaction exprimée à la sortie du tribunal par son avocate Camille Vasquez.
Le verdict d'aujourd'hui confirme ce que nous avons dit depuis le début. Les allégations contre Johnny Depp sont diffamatoires et étayées par aucune preuve. Nous remercions les jurés pour leur délibération minutieuse dans ce dossier.
Restez sur l'antenne d'Europe 1. Dans ce procès, Johnny Depp a lui-même été condamné en diffamation. Mais pourquoi ? J'aimerais bien votre avis là-dessus, Marion Lombert, qui suivait cette affaire de près, évidemment. Pourquoi le public et les médias en font tout de même le vainqueur au détriment d'Amber Heard, Johnny Depp ?
Parce qu'en fait, depuis le début, c'est plus un procès médiatique et un procès sur les réseaux sociaux qu'un vrai procès juridique. C'est la popularité de Johnny Depp. C'est la façon aussi dont il a mené le procès qui est effectivement un fait de main de maître. Ses avocats ont fait un super boulot. Il a eu tout de suite toute l'opinion publique avec lui, alors que Amber Heard partait déjà plutôt perdante et s'est effondrée au fur et à mesure du procès avec une défense qui a été quand même très très mal menée, avec effectivement une crédibilité qui a été vraiment mise à mal par l'avocate de Johnny Depp. Donc au final, oui, il est le grand gagnant du public, en tout cas qui l'adore, qui le connaît depuis très longtemps. On est sur un personnage en plus qui a fait des films très populaires, des films très positifs, toute la saga des Animaux Fantastiques ou évidemment de Pirates des Caraïbes. On est sur une icône en fait, comparé à une Amber Heard qui a une petite carrière et qui du coup on soupçonne de vouloir s'attirer de l'attention et de l'argent.
D'être opportuniste. Votre une est donc consacrée au voyage à Paris de Johnny Depp. Enfin, je dis ça comme si tout le monde était au courant. Moi, je l'ai appris qu'il était à Paris grâce à la une de Voici. Non pas pour fuir les USA, mais pour préparer son retour pour un tournage. Le prochain film de la réalisatrice Maïwenn Lebesco, où il va camper Louis XV. Il y a une photo des deux, de la réalisatrice et de Johnny Depp. Votre journaliste, Justine Maz, c'est son vrai nom ?
Non.
Votre journaliste écrit « Le reste du temps, Johnny est resté le plus souvent à l'hôtel. Le soir, il s'est fait livrer dans sa suite 6 pizzas alors qu'il passait juste la soirée avec un pote. S'amuse un témoin. Donc soit son pote est boulimique, soit ils n'étaient pas simplement deux. Quel genre d'informateur vous avez dans ces hôtels de luxe pour être au courant qu'il y avait 6 pizzas et non pas 5 ni 7 ?
On a des informateurs, je ne vous dirai pas lesquels évidemment, puisque c'est vraiment ultra confidentiel, mais effectivement, on a des informateurs, on a aussi des photographes qui sont sur place, et des informateurs, que ce soit dans les hôtels, dans l'entourage des stars, dans les restaurants, etc.
Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans Voici cette semaine, vous le faites souvent, c'est cette double page intitulée « La vérité sans filtre ». Vous montrez que les stars ne ressemblent pas vraiment à leurs photos, évidemment, puisqu'il y a les filtres Instagram. Alors, on voit Gwen Stefani, Megan Fox, Demi Moore, Cindy Crawford, Naomi Watts et Kourtney Kardashian. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Vous avez vu ce qu'elles ont en commun ?
Dites-moi.
Il n'y a aucune Française.
Ah,
oui. Il n'y a aucune Française. Pourquoi n'avoir pas fait la même chose avec des stars françaises ? Pourquoi il n'y a pas Marion Cotillard ? Pourquoi il n'y a pas Alexandre Alamy ? Pourquoi il n'y a pas Catherine Deneuve ? Vous avez peur des procès ?
Alors, ce n'est pas une question de procès, c'est qu'en fait, c'est vraiment très américain, cette histoire de filtre et d'Instagram. Une Marion Cotillard se poste assez peu, et quand elle se poste, comme Alexandre Alamy, elles sont plutôt...
J'ai dit, c'est de là, j'aurais pu prendre d'autres noms, ils sont
venus
comme ça.
Elles sont plutôt, plutôt nature. Elles ont, les Françaises n'ont pas du tout le même rapport aux réseaux sociaux que les américaines.
Tout à l'heure, je parlais des vannes que vous faisiez sur la belle famille qui ressemblait à un cheval avec des grandes dents, des grandes oreilles. J'ai remarqué que les vannes les plus perfides n'étaient jamais à l'encontre des Françaises, mais à l'encontre des stars internationales parce qu'elles font moins de procès.
Elles font moins de procès. Certaines en font, mais effectivement, pour être honnête, oui.
On est une émission média, on peut dire les choses. Hein. On connaît tous le métier.
On fait plus attention sur, évidemment, les Français, puisque quand on a des assignations, tout est décortiqué et que le montant des dommages et intérêts est évidemment lié proportionnellement à ce qu'on va écrire. Et donc, on essaye d'éviter à un moment que l'addition soit trop lourde.
Et ben justement, vous parlez de décortiquer, je rebondis avec ce verbe. Il y a ce papier, vous répondez à la question qu'on vous pose le plus souvent, qui est le people qui vous a pris le plus d'argent, celui qui a obtenu le plus, c'est Zinedine Zidane qui a fêté ses 50 ans hier, mais celle qui vous a pris le plus d'argent via les tribunaux en tout, je vous laisse annoncer son nom.
C'est Jennifer.
Combien ?
Ouh là, j'ai plusieurs centaines de milliers d'euros.
Vous ne pouvez pas lire, c'est dans votre journal. 600 000 euros en un peu plus de 20 ans. Comment est géré ce budget ? C'est sortie dépense, on se dit, bon allez, on balance ça sur elle, ça va nous faire gagner tant de lecteurs, tant de lectrices, ça va nous faire gagner 20 000, 30 000 euros, on va perdre 10 000, 12 000, comment vous gérez ça ?
Alors, pas tout à fait comme ça. En fait, ça fait partie de l'équation économique du titre depuis très longtemps. Donc, on ne le fait pas au coup par coup. Mmh. On a un budget procès à l'année, que je ne révélerai pas, mais que, dans lequel voilà, on met aussi bien les frais d'avocat que les dommages et intérêts, et que je gère, évidemment, sur l'année. Donc, en fonction de ce qu'on a envie de faire et des décisions des tribunaux qui sont parfois très différentes. Mmh. On peut avoir une année où les tribunaux sont extrêmement sévères et une année où vous êtes beaucoup plus souple. Donc ça se gère comme ça au fil de l'eau sur l'année.
Et puis ça dépend aussi de ce qu'on annonce. Si on annonce que deux personnes sont ensemble, c'est pas la même chose que si on annonce que telle comédienne a trompé son mari.
Tout à fait.
Il y a aussi la nature de l'information qui est donnée. Après 35 ans, comment sont les ventes de Voici ? Comment ça marche ? Êtes toujours là déjà. Premièrement, il y a des magazines qui ont coulé en cours de route. Vous avez été suivi, c'était une manne. Il y a désormais Closer, j'espère ne pas me tromper, et
Public.
Oups, existe toujours ou plus ?
Il existe.
D'accord.
Ouais, voilà, il existe un peu.
Il existe, elle vient de les rhabiller pour l'hiver. Comment sont les ventes de Voici ?
Elles se portent bien. Alors évidemment, c'est un marché comme toute la presse magazine qui est assez difficile. Mmh. Mais on a Voici 50% de part de marché sur le marché People.
Ouais.
Donc on va dire qu'on est largement leader et que voilà, ça se passe bien.
Ce sont les chiffres de la CPM, Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Voici est 35e des ventes des magazines en France avec 206 310 exemplaires en diffusion payée France. C'est comme ça qu'on dit. Closer est 49e et Public est 77e. Et on n'a pas noté les chiffres de Oups. La une de la semaine prochaine, vous la connaissez déjà ou pas encore ?
Non, pas encore. On boucle le mercredi à 15h pour une parution en kiosque le vendredi matin. Donc la couve, c'est mardi, mercredi matin.
Dernière petite question, vous allez prendre des vacances cet été ou au contraire, c'est l'été qui a le plus d'adultères, de filles topless comme Laetitia Hallyday, et que c'est justement le moment où vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des vacances comme si vous étiez plagiste.
Alors pas tout à fait, je prends des vacances, mais en général fin août, après le 15 août, quand le gros voilà. De l'été été passé, effectivement, pour que c'est notre moment à nous, c'est le moment où on a le plus de ventes et où il y a le plus de choses qui se passent dans la sphère people. Donc oui, je prends des vacances, mais après la bataille.
Merci beaucoup Marion Alombert, Voici spécial anniversaire en kiosque dès aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous en direct et avec cette franchise. Dans un instant, on va parler d'une émission culte d'Arte, c'est Trax. 25 ans Trax, ils explorent la musique et l'art en général sous toutes ses formes. C'est l'inverse d'un magazine branché, ils essaient de ne pas l'être. Nous serons avec ces deux rédacteurs chefs, David Combes et Jean-Marc Barbieux. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Marc Barbieux.
Bonjour.
Bonjour David Combes.
Bonjour.
Vous êtes les deux rédacteurs chefs de Trax sur Arte. C'est à 23h30 le vendredi. Donc c'est ce soir, émission iconique de la chaîne culturelle franco-allemande. Première émission, c'était le 3 janvier 1997. Elle a donc 25 ans, un quart de siècle. Et vous-même, vous êtes aux commandes de l'émission depuis l'an 2000, comme on disait. Donc 22 ans, 300 000 téléspectateurs vous regardent chaque soir. Je vais commencer par la question la plus difficile que vous posez chaque semaine, j'imagine. Pour qui n'a jamais vu l'émission, comment vous définiriez Trax ?
Christelle, la voix de Trax.
Qu'on a entendue dans le sommaire.
Tout
voix,
à fait.
Voix iconique elle-même.
Elle avait donné elle avait fait une très belle image sur Trax. Elle avait dit que c'était un petit jardin, un petit carré de fleurs dans un monde de béton, qui est le PAF en général. Donc c'est un endroit où on respire.
Ça ressemble absolument pas à Trax du tout. Parce que là, on croirait que c'est quelque chose d'écolo. Ou alors silence, ça pousse. Donc c'est pas ça du tout. Autre définition de Trax que vous donneriez ?
Je dirais qu'à Trax, on en a beaucoup vu, mais on fait comme si on n'avait encore rien vu. Donc, je dirais que l'aiguille, c'est la curiosité. Et on se différencie souvent par rapport aux autres, et c'est un peu dommage. Et nous, les autres, ça nous attire, en fait.
La baseline, il est question d'avant-garde, aux avant-postes de la culture. C'est une émission musicale à la base. Trax, c'est le nom des pistes dans un enregistrement multipiste. Et puis, tout d'un coup, ça a dévié, ou plutôt ça s'est élargi à l'art contemporain avec plein de choses. Je ne savais pas ça quand je regarde souvent l'émission. Il y a une charte avec des règles de base, 2,5. Dites les règles de base.
On ne parle pas des morts.
On ne parle pas des morts.
Et on ne parle pas deux fois des gens.
Voilà. Et on ne traite jamais deux fois le même artiste. Donc, et aussi, ce petit corollaire, j'ai lu ça, toujours des artistes en activité, donc pas de retraités.
Si, bien sûr. On aime bien les retraités.
Mais voilà. Les artistes retraités, c'est relativement rare aussi, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de retraites, donc on n'a pas bien cotisé, et en général, on est obligé de bosser jusqu'au bout.
Hein. Voilà, je ne vais pas citer le nom de chanteurs qui ne font plus rien, ça serait leur faire injure, et ça ne serait pas juste ni sympathique. Autre exigence de Trax, c'est s'intéresser aux pionniers, aux nouvelles tendances, et alors là, c'est très intéressant, puisque ce soir, c'est le hasard de la programmation, l'émission est consacrée au métal. Le métal, c'est une nouvelle tendance. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce que vous êtes allé choper dans le métal, qu'on appelait autrefois le hard rock ?
Oui, alors en fait, Trax appartient à un groupe qui s'appelle Arte. Et il célèbre depuis la semaine dernière le Hellfest, donc, qui est en deux temps cette année. Nous avions d'ailleurs été les premiers à interviewer le patron du Hellfest. À l'époque, ça s'appelait le Furry Fest. Et je vous invite à aller voir le sujet parce que c'est assez rigolo. On le voit donc batailler avec un fax pour essayer de caler les artistes. Et puis, bon, ils étaient une toute petite équipe. Et donc, effectivement, on accompagne Arte dans cette programmation sur le métal, puisqu'elle y consacre une grande partie de son antenne et sur Internet.
Le titre du numéro de ce soir, c'est « Spécial Métal Scandale ». Qu'est-ce que le métal a encore de scandaleux, Jean-Marc Barbieux ? Et vous en avez trouvé du scandale, puisque j'ai vu l'émission.
C'est ce qu'on s'est demandé. Ouais. Et on s'est dit qu'en fait, les plateformes shoes, en fait, tous ces trucs qui faisaient les grandes heures du métal...
Genre qui c'est les semelles et les talons de 10 cm.
Voilà, hein, donc qu'utilisaient absolument tous les hard rockers dans les années 70. Bah, c'est plus ça maintenant. Il faut, on donne la parole au chanteur d'un groupe qui s'appelle King 810, qui lui parle de sa vie quotidienne de White Trash. Donc il est de Flint, la ville de Michael Moore, et donc il est très brut lui pour le coup, et il prend pas de platform shoes.
Alors c'est un ancien taulard tatoué des pieds à la tête. Il est interdit de concert. Il fait partie de ceux qui avaient marché sur le Capitole pour renverser. Non, comment ça non ?
Non, il est interdit de concert parce qu'il y a eu des bagarres dans ses concerts, mais pas pour ça.
D'accord. Alors c'est ce qu'il y a dans votre dossier de presse. Je comprenais pas le rapport, mais peu importe. Voilà. En tout cas, il a marché sur le Capitole. Et ma question suivante ne change pas. Marcher sur le Capitole pour renverser le Sénat de la démocratie américaine. Pourquoi l'avoir choisi ? J'en parle parce que s'il y a quelque chose qui fait partie des valeurs ontologiques d'Arte, c'est bien la démocratie.
Bien évidemment, oui. Après, il y a aussi quand même une tendance...
Non, mais pas répondu. Pourquoi l'avoir choisi ?
Je vais te répondre. C'est que... t'inquiète pas. Et je vais prendre mon temps, tiens. Allez, une petite heure. Non, mais on ne s'intéresse pas simplement aux choses qui nous plaisent. Donc, c'est un peu le problème des émissions, souvent, c'est qu'elles parlent un peu de ceux qui la font. Et donc, de leur goût. Et à Trax, on s'intéresse à ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans cette émission, on s'est dit, bon, le métal fait recette, mais est-ce qu'il fait effectivement encore scandale ? Et là, quand on fait un scandale, on fait pas l'unanimité. Et effectivement, je ne suis pas forcément d'accord avec ce garçon quand il va marcher sur le Capitole. Par contre, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a dans sa tête, et il l'explique pourquoi il est dans cette marche. Et pour nous, ça fait sens.
Je vous avais dit que cette émission était unique. Grâce à vous, j'ai fait une découverte qui s'appelle Manuel Gagneux. Son nom est français, mais il ne l'est pas. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Zine et Ardor. Il fait du black metal. Alors, pour dire les choses très rapidement, c'est du métal satanique. On va entendre la voix iconique de Christelle, extrait de l'émission qui passe ce soir.
J'utilise le satanisme comme un outil, pas comme un chemin spirituel. Pour moi, il ne s'agit pas d'une croyance à proprement parler, mais d'une rébellion contre l'Église. C'est comme ça que je vois le black metal.
Sous le nom de Zeal and Ardor, le Suisse américain Manuel Gagneux accouche en 2013 d'un monstre, les Satanic Spirituals. Un cocktail mélangeant deux genres musicaux qui n'ont rien en commun, les chants des esclaves et le black metal, dont les adeptes ont brûlé une centaine d'églises en Norvège, où elles ont le malheur d'avoir été construites en bois.
Et le texte qui dit que c'est ironie, les églises ont le malheur d'avoir été construites en bois. Non, le malheur, c'est qu'il ait foutu le feu. Non. Pourquoi elle est choisie, lui aussi ? Même question.
Bah, ça raconte l'histoire même de la musique moderne. C'est l'histoire du blues. Hein. C'est Robert Johnson qui va signer un contrat avec le diable. Donc ce type ne fait faire que le lien entre deux histoires qui finalement sont toujours... c'est la même histoire depuis le début.
Et j'ai découvert aussi quelque chose grâce à vous. Le métal qui fait exploser des digues. Vous parlez de Tommy Lee, qui est le batteur du groupe Motley Crue. Dit comme ça, ça parle à personne. Mais il a inventé un genre qui n'existait pas avant lui. Et à qui l'une des femmes les plus riches du monde doit en partie sa notoriété, c'est Kim Kardashian. Je peux également citer Paris Hilton. C'est Tommy Lee avec sa femme Pamela Anderson qui ont inventé la sextape.
Exact, oui. Comme quoi on apprend beaucoup de choses hein, dans Trax, c'est très pédagogique.
Vous le dites avec ironie, moi je le dis avec sérieux. On apprend beaucoup de choses dans Trax. On n'a pas encore.
Et on a même mis un extrait, hein, quand même, de la sextape. Hein, parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Donc regardez ce soir, vous verrez l'extrait de la sextape.
Vous me dites comme si je n'avais pas vu l'émission. On sent le gars qui veut ramener du monde ce soir à 23h30. Restez avec nous, Jean-Marc Barbieux, David Combes. On n'a pas encore tout dit sur Trax. Europe 1, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Marc Barbieux et David Combes, ce sont les deux rédacteurs en chef de l'émission Trax. Elle existe depuis 1997 et vous-même, vous êtes rédac chef depuis 2000. Ce soir, c'est une spéciale, il y a des thèmes à Trax. Ce soir, c'est tombé comme ça à l'occasion du Hellfest. C'est une spéciale métal. La baseline de l'émission, je l'ai dit, c'est aux avant-postes de la culture. Et on découvre, grâce à vous, des musiciens totalement hallucinants. Si je ne l'avais pas vu, je penserais que c'est une blague. Monsieur Marcaille, est-ce que vous pouvez le décrire ? C'est un Français.
C'est un Français qui vit en Belgique, qui a fait le conservatoire, donc qui fait du violoncelle, et puis qui tout d'un coup a eu une illumination. Et qui a une autre particularité, c'est qu'il adore porter des slips.
Ouais. Mais tout le monde en porte, sauf que lui ne porte que ça.
Voilà.
Il est français, il chante, il faut imaginer ça. Il est le trait d'union entre Jean-Sébastien Bach et Motorhead.
Exact.
Il chante, en même temps, il joue de son instrument qui est le violoncelle. Il est assis sur un tabouret, en slip.
Il
c'est
peut jouer
lui
partout,
qui chante.
En fait, hein.
Ouais. Et enfin, il chante pas, il hurle. Mais c'est complètement dingo. Comment vous l'avez trouvé ?
C'est nos journalistes. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer toute l'équipe. Normalement, on leur amène les croissants tous les matins vers 6h. Donc là, on est un peu en retard, excusez-nous. Mais en fait, Trax, c'est une rédaction. Et donc, on travaille pas du tout. Enfin, je dis pas que Jean-Marc et moi, on fout rien. Hein, mais globalement, il y a des journalistes, une rédaction interne et des journalistes extérieurs qui nous trouvent nos personnages et nos idées. En l'occurrence, là, c'est Valérie Payet qu'on salue, qui avait eu vent de ce personnage.
Et ce groupe Mystic Mood, groupe de métal 100% féminin de Casablanca au Maroc, elles ont de 15 à 17 ans. Là aussi, il faut les repérer, c'est du bizarre.
Exact. Alors là, c'était à l'occasion d'un sujet qu'on a fait au Maroc. C'est Sophie Perrard. Je ne vais pas citer tous les noms à chaque fois.
Mais non, mais c'est des pigistes. Il y a plein de gens qui bossent
tout
pour
à
vous.
Fait. Oui,
qui
exactement.
Sont les gens qui travaillent pour vous ? C'est pas les étudiants classiques et étudiantes classiques qui sortent des écoles de journalisme non moins classiques.
Exact.
C'est qui ? N'importe qui peut venir avec sa DV et dire j'ai tourné un sujet.
C'est la base de Trax.
C'est pas vrai.
Et en fait, c'est pas nous qui l'avons mise en place. Paul Rambali.
Voilà, c'est ambiance citation de nom. Voilà.
Ouais.
Paul Rambali qui était le premier chef de Trax quand on est arrivé et qui était l'ancien rédacteur-chef de Face Magazine.
Mais bien sûr,
80.
Paul Rambali avec qui j'ai travaillé à Actuel, immense journaliste,
voilà.
Homme
et donc il avait mis cette règle qui venait entre autres de la BBC d'ailleurs, mais qui était tout le monde peut venir s'il a deux idées.
Ça s'arrête là, la phrase ?
Voilà.
S'il a deux idées. Donc, voilà.
Et il avait le droit de le voir pendant 10 minutes dans son bureau.
Voilà.
Et on a sophistiqué la chose en exigeant des gens qui viennent nous voir qu'ils aient vu une fois l'émission, quand même. Voilà.
Avez-vous déjà été censuré avec tous ces trucs barjots, comme par exemple les satanistes qui ont brûlé plus d'une centaine d'églises en Finlande, qui avaient le malheur d'être en bois ?
Comment tu sais qu'on a été censuré pour ce sujet-là ?
Parce que vous l'aviez dans une interview. Et comme je prépare avant de faire une émission, je le savais.
Disons qu'on a été censuré au début, effectivement, parce qu'il fallait qu'on s'ajuste un petit peu aux règles. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet que j'avais fait moi en Norvège. Et on avait le chanteur d'un groupe qui s'appelait, le groupe, je ne me souviens plus comment il s'appelait.
Gourzoum, tout
c'était Gourzoum, oui.
Ouais.
Qui était un groupe historiquement très important dans cette scène-là. Et le type s'appelait Necro Butcher.
D'accord.
Et il m'a montré une collection de gourdins sur le mur. Et je lui dis, ça sert à quoi ? Il me dit, c'est quand les flics viendront, le premier qui passe la tête, je lui mets un coup de gourdin. Je dirais, je suis sourd puisque je joue dans un groupe de métal depuis 20 ans. Et là, la responsable d'Arte qui visionnait le truc m'a dit, mais on ne peut pas passer ça, quoi. Ça peut donner des idées aux gamins.
Bien sûr, incitation à la haine. Et en même temps, ça vous fait rigoler. C'est quoi vos limites ? Si j'ai bien compris, c'est ce que la loi interdit.
Nazisme, pédophilie, enfin tous ces trucs-là, quoi.
Sinon, on pouvait tout passer.
Moi, je me réfère souvent à la devise du canard enchaîné, hein, la liberté de la presse ne suffit que si on ne l'utilise pas. Donc il faut impérativement que les journalistes utilisent leur liberté et ne pratiquent pas l'autocensure. Et après, il peut y avoir des organes qui censurent, bien évidemment, mais ce n'est pas à nous de nous censurer.
Très rapidement, parce que c'est très difficile de tout citer, il y a eu plus de 5000 reportages, s'il fallait en retenir qu'un seul, moi je me souviens de le reportage qui m'avait beaucoup marqué, plus la polémique qui a suivi, vous aviez enquêté sérieusement sur les punks à chiens.
Ah oui, l'occurrence là, c'est Gabriel, culant, que je cite, qui a vécu en immersion avec les punks à chiens et qui nous a ramené effectivement, c'est notre première série, hein, on
des
va
plus.
Dire.
En
Non, c'est mesquin. Non, mais ça partait d'une idée très simple qu'avait eue Jean-Marc, je me souviens. Et il disait, mais en fait, que font ces gens qui emmerdent tout le monde? Parce que souvent, malheureusement, les gens les trouvent plutôt toxiques avec leur chien. Pourquoi ils ont un chien? Et donc, Gabrielle s'est un peu penchée sur la question et elle a craqué sur cette histoire. Et elle est restée plusieurs semaines en vie.
En immersion.
Voilà.
Comment est construite l'émission? Parce que c'est un projet franco-allemand, Arte, je n'apprends rien à personne. L'émission est construite en alternance. Il y a un sujet fait par une rédaction allemande, puis ensuite, c'est votre rédaction, comment ça se passe?
Non, il y a trois rédactions en Allemagne et une rédaction en France. Et une semaine sur deux, c'est allemand ou français.
Voilà. Trax en est à sa 17e saison. Vous avez signé pour l'année prochaine?
Un truc comme ça. Oui, oui. Enfin, on est encore là.
Comment? Voilà. Vous avez gardé évidemment la voix culte de Christelle André.
Tout à fait.
Tout à fait.
C'est notre. C'est la seule incarnation de l'émission, en fait. Tout peut changer, mais c'est la voix qui rappelle aux gens que c'est Trax.
Même nous, hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas de présentateur, mais la chaîne a failli vous en imposer un.
Ah ouais.
Il paraît que ce fut la frayeur de votre vie.
Tout à fait. On pourrait saluer celui qui avait eu cette brillante idée.
Arrête de citer des noms. Voilà.
Non, pourquoi c'était qui? Il est devenu quoi, surtout?
Je sais pas.
Non, je me souviens plus. Mais non, je vais pas citer. Mais par contre, effectivement, dans mon souvenir, tu te souviens du Vincent McDoon. Voilà,
il avait. Vincent McDoon ou voilà, Marianne James.
Voilà, c'était ça l'idée.
Comme présentateur ou présentatrice.
Voilà.
Oui, mais c'est pas lui qui a cette idée-là.
Finalement, ça s'est pas passé.
Vous travaillez avec presque des mois d'avance à cause des traductions, parce que les sujets qu'on voit sont traduits en allemand pour être diffusés en Allemagne. Donc, vous savez déjà quels seront les prochains projets après le métal, parce que ça se résume pas à une émission sur le métal. C'est très varié, je dis ça aux gens, allez voir Trax sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube que vous avez, ça part totalement dans tous les sens et c'est un compliment que je fais là. Les prochains thèmes que vous allez faire, ce seront lesquels?
On va parler du fétichisme des clowns, par exemple.
Des clowns?
Fétichisme des clowns, oui.
D'accord.
Il faut
ça, c'est pointu. Hein.
Ouais, non, mais en fait, dans le fétichisme, il y a beaucoup de tendances qui sortent, qui vont après arroser la société. Hein. Mm-hmm. On va aussi parler de courses de tondeuse à gazon, une activité en Angleterre qui marche pas mal. On va parler du rap smoothie. C'est un rap qui est pas trop méchant, mais pas trop gentil. Voilà, comme un bon smoothie. Voilà. Enfin, on est à Neuchâtel bientôt là pour le festival du film fantastique. Enfin, voilà, on n'arrête pas de bouger et de tourner.
C'est absolument extraordinaire parce que si on faisait qu'entendre ce que vous dites là, sans voir l'émission, on peut penser que c'est un sketch des Inconnus. Les courses de tondeuse à gazon et le fétichisme
c'est
des
Inconnus ou Groland. Ouais.
Ou Groland, c'est vrai.
Qui sont nos amis.
Il y a un côté Groland.
Sauf que c'est le vrai Groland. Ouais.
On est bien d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. David Combes, Jean-Marc Barbieux, ce soir. Arte, 23h30, Trax, spécial, métal, scandale. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il a regardé un numéro de 90 minutes enquête sur TMC. Consacré, vous savez à quoi? Aux chasseurs de fantômes. Il n'y a pas que les clones de clowns. Dans la vie, il en tremble encore. Et notre invité, c'est le chanteur Alpha Blondie pour son album militant et festif. Vous allez le croiser en sortant Eternity. Puis dans les indispensables, Laurent Mariotte va nous dire quoi manger durant les festivals estivaux. Et puis Olivier Benkemoun va nous dire tout ce qu'il pense du mythique film, du non moins mythique Elvis. Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. Je reprends mon souffle. Quel programme? À tout de suite.